Mémoire vive,
présentée par Eve Cheftel,
préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. On parle beaucoup de Charlotte Salomon en ce moment, et ce n'est que justice. Entre 1940 et 1942, cette jeune juive allemande, réfugiée à Nice, a peint jour et nuit, dans une haletante course contre la montre, plus d'un millier de gouaches, accompagnées de textes courts, avant d'être arrêtée par les nazis et assassinée à Auschwitz. Elle avait 26 ans et était enceinte de quelques mois. Le grand public a fait sa connaissance grâce à David Foenkinos, que nous avons reçu dans Mémoire vive, et à son roman Charlotte, prix Renaudot 2014. Une jeune maison d'édition française, les éditions Le Tripode, vient de publier, avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, l'intégralité de son œuvre, qui s'intitule « Vie ou théâtre », soit 800 pages et 5 kilos. De nombreuses expositions lui ont été consacrées depuis 10 ans, depuis celle du MAJE en 2006, du Musée d'art et d'histoire du judaïsme en 2006, jusqu'à celle qui vient de se terminer, par exemple, à la chapelle Saint-Elme à Villefranche-sur-Mer, là précisément où elle a peint son œuvre, en passant par la rétrospective du Musée juif d'Amsterdam, où sont exposés les originaux. Le 3 décembre, et c'est la raison pour laquelle nous faisons cette émission, sera projeté au Mémorial de la Shoah, Charlotte, vie ou théâtre, du cinéaste suisse Richard Dindot. Bonjour Esther Offenberg.
Bonjour.
Vous êtes vous-même réalisatrice de films, documentaire et productrice, membre de la commission Mémoire et Transmission de la Fondation. Et nous vous avons invité à nous parler de ce film, car c'est vous qui l'avez produit en 1992, et j'insiste sur la date, en 1992, parce que là on parle de l'actualité de Charlotte Salomon, mais vous avez été pionnière en France par rapport à la découverte de Charlotte Salomon. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous raconter dans quelles circonstances vous avez découvert l'existence de cette jeune peintre ?
Oui, c'est bien de revenir à la découverte, parce que chacun a une histoire par rapport à sa rencontre avec Charlotte Salomon. Et la mienne s'est passée par Thierry Garel, qui m'a parlé d'une telle manière de cet artiste. Donc Thierry Garel, qui était responsable des documentaires à Arte. Et j'avais encore rien produit. Et je commençais ma vie de productrice et je l'ai commencé avec Charlotte. C'est vous dire l'importance
d'accord, c'est votre
de
premier
ce film pour moi en tant que productrice. Et donc Thierry Garel, ensuite quelqu'un m'a ramené le livre d'Amsterdam. Et alors là j'ai fait cette découverte extraordinaire, j'ai plongé et j'ai dit à Thierry Garel je veux le produire. Il m'a dit mais attendez, bon, et donc j'ai confié le scénario à Dominique Abinsour qui a fait vraiment un travail, qui a épluché vraiment toute l'œuvre, etc., qui en a sorti une espèce de storyboard. Mais pour moi, ce qui a été extraordinaire, c'est le côté très cinématographique, très avant-gardiste de l'œuvre de Charlotte. Et puis, ça faisait écho aussi à ma propre histoire, puisque ma mère est allemande, née à Berlin. Même si elle n'est... voilà. Et donc, il y avait beaucoup de choses aussi par rapport à la maladie mentale. Mais je crois que le propre de Charlotte Salomon, c'est que chacun tisse un lien particulier et en fait sa chose. Et tout le monde voudrait l'avoir découverte.
C'est vrai. C'était ce que nous disait justement David Foenkinos. Et alors, vous-même, vous avez consacré un film à votre mère, hein, comme réalisatrice, hein, et à votre père également, d'ailleurs, Sam Offenberg. Charlotte Salomon disait à propos de son œuvre que c'était quelque chose de spécial, d'assez fou, hein, « etwas ganz verrückt besonderes », elle disait. Et vous aussi, avec Richard Dindot, d'une certaine manière, vous avez fait quelque chose d'assez spécial. Vous avez fait le choix de rester à l'intérieur de l'œuvre, et votre film, en fait, peut se lire, hein, littéralement, comme on feuillette un album, on est les images, chaque plan, se confondant avec les pages ou les toiles, c'est peut-être sous forme de toiles, je ne sais pas si c'est des toiles ou des pages.
Ce sont des gouaches.
Des gouaches, d'accord.
Ouais. Des gouaches, et nous sommes allés à Amsterdam filmer les originaux, ce qui était d'accord. La première fois dans un film. Voilà.
C'est-à-dire
on a eu l'autorisation pour les amener, mais vraiment d'accord. Sous haute surveillance, jusqu'au studio où on a pu les faire en 35 mm. Hein. C'est un film en pellicule, donc qui est aussi un outil de conservation de cette œuvre.
Tout à fait.
Parce que donc, notre film est conservé au musée. Aux archives du film de Bois d'Arcy, et donc c'est un support aussi de perpétuation de cette œuvre. Et Richard Dindot a souhaité, puisque c'était une œuvre très cinématographique, en fait il a fait l'œuvre, c'est une adaptation, d'ailleurs le film a eu le prix de la meilleure adaptation au Festival de films de l'art à Montréal, C'est parce que c'est une adaptation, mais il a mis en regard, il y a quand même des images vivantes, parce que c'est rester uniquement plongé dans des gouaches, c'est quand même assez fatigant. Il a été sur les lieux, et les lieux sont tournés de manière...
C'est le seul hors-champ du film,
voilà.
En réalité, hein, c'est
Berlin,
c'est ça.
Et la Côte d'Azur, où elle a donc...
Berlin, l'immeuble où elle a vécu, voilà. La fenêtre par laquelle sa mère s'est suicidée,
voilà.
Et... aussi des images de peut-être, je ne sais pas si c'est du Tiergarten à Berlin, ou enfin de cet endroit où elle va avec son amant.
Exactement, donc c'est les lieux où elle se promène, qui sont son environnement à Berlin, et Villefranche où elle a peint son œuvre. Et il a retrouvé la maison, etc. Donc il y a un côté très authentique, hein, dans ce travail, et d'évocation justement, il n'y a pas de représentation, parce qu'on avait vu, c'est pas le premier film, puisqu'il y a eu des films de fiction, de Franz Weiss, etc. Donc lui, il a voulu, il a trouvé cet angle d'adaptation, c'est-à-dire de rentrer, de faire raconter l'histoire par Charlotte elle-même, et de ne donner que quelques clés, comme vous l'avez fait en début d'émission.
Oui, c'est-à-dire que c'est ni une monographie de l'œuvre, c'est pas non plus une biographie, c'est vraiment, comme vous dites, une adaptation.
Une adaptation, parce que c'est une œuvre très originale. L'œuvre de Charlotte Salomon, c'est une œuvre en peinture, en texte, avec des indications musicales. D'ailleurs, c'est comme un livret d'opéra, puisque au début, elle annonce les personnages. Il y a une partie fictionnelle qui lui permet de se livrer davantage. Ça, c'est le rôle de la fiction. Et du coup, elle donnait tous les éléments, en fait, pour pouvoir construire son histoire, tout en lui laissant cet aspect créatif et fictionnel.
Il y a une voix off, si on peut dire, qui est interprétée par Anne Alvaro, qui en fait lit les dialogues de ce... Elle disait théâtre parlé, c'est ça, ou théâtre chanté, elle voulait que son œuvre soit...
Ein Singspiel, voilà.
Et aussi, Anne Alvaro lit, nous accompagne dans la découverte de ces gouaches, d'une voix très belle d'ailleurs. Donc Anne Alvaro lit donc les dialogues de ce Singspiel, et les commentaires aussi de la narratrice, parce que comment vous qualifierez cette œuvre ? C'est du roman graphique avant la lettre ? C'est de Charlotte Delbault ?
Je pense qu'elle est très...
Charlotte Salomon.
Elle a été très avant-gardiste dans la manière de mêler les textes. Ils sont tantôt peints directement sur la gouache, comme en allemand, évidemment. Et tantôt, ce sont elle a ajouté des calques pour écrire ces textes qui se superposent aux images.
D'accord.
Donc c'est très très libre, en fait. Hein. C'est comme un storyboard, en fait. Ça ressemble le plus à un storyboard de film animé. Donc, c'est par rapport à ça que se sont prises... Et alors, ce qui a été très intéressant par rapport au film, c'est qu'on a pu restituer aussi la dimension musicale et respecter ses choix musicaux et ne pas, justement, faire respirer un petit peu en étant dans cette atmosphère, dans sa propre culture.
C'est une œuvre, d'une certaine façon, totale, qui a l'ambition d'être totale, c'est-à-dire faisant appel à plusieurs arts, le chant, la peinture, le théâtre, on pourrait dire le roman, ce qui reflète aussi sa position et cette famille, avec cette belle-mère qu'elle a eue après le décès de sa mère, qui était chanteuse, son intérêt multiple quoi, pour
Alors,
les arts.
C'est bien que vous parliez de... Paulinka, comme elle l'appelle dans son œuvre. Donc sa belle-mère, qui contrairement au cliché, elle a beaucoup aimé en fait. Elle a été, c'était une cantatrice et elles ont eu une relation très forte. Et en fait, en 92, la première exposition, vous savez, a été initiée par Nathalie Brunet, qui est maintenant hommage, mais qui était à l'époque au Centre Pompidou, grâce au film, parce qu'elle a découvert... Ça s'est passé ensemble. Le Centre Pompidou était coproducteur du film grâce à cette rencontre. Et ils ont fait une expo plus petite, bien sûr, que celle qui a eu hommage, mais au cabinet d'art graphique en 1992.
D'accord.
En même temps que la sortie du film.
D'accord.
Donc Arte a quand même bien diffusé le film et l'a rediffusé au moment de l'exposition du Mage en 2006.
D'accord. Et donc à propos de cette, vous disiez qu'elle avait fait bon accueil, hein, cette belle-mère.
Oui, elle était venue à la projection.
On disait qu'elle était jalouse.
Voilà. Oui, mais en fait, c'était beaucoup plus compliqué que ça, et même donc.
Elle était venue à la projection même.
Elle était venue à la projection. C'est pour ça que j'évoque ce souvenir, parce qu'elle, c'était une dame de 90 ans qui avait une pêche extraordinaire et des chaussures dorées. Et, enfin voilà, on a fait connaissance et c'était. Et Richard Dindo l'avait filmée d'ailleurs. Nous avons quelques images muettes d'elle. Avis aux amateurs.
Parce que faut rappeler que donc Charles Salomon est né dans une famille de la bourgeoisie juive aisée et totalement assimilée. Son père était un grand chirurgien qui sera d'ailleurs exclu de l'hôpital puis interné à Sachsenhausen, je crois. Après la mort de sa mère qui se suicide, il y a une sorte de malédiction du suicide dans la famille. Son père se remariera avec donc une cantatrice qui sera elle aussi interdite d'exercice ou...
Oh, bah, de toute façon, c'est ça qui est formidable dans l'œuvre de Charlotte, c'est qu'à la fois elle évoque le contexte historique de manière très précise, c'est-à-dire le moment où on ne peut plus travailler, etc. Mais c'est vraiment il y a des points de repère depuis 1933, elle trace toutes les phases de l'exclusion des Juifs de la vie.
Tout à fait, c'est vraiment aussi la chronique... D'une jeune fille juive allemande face à la montée du nazisme.
Mais disons que c'est vraiment à l'arrière-plan.
Arrière-plan, tout à fait.
Puisque c'est quand même un journal intime. Hein.
Tout à fait.
Un journal intime recomposé.
Tout à fait. Il y a d'ailleurs des très belles gouaches qui témoignent de cette relation qu'elle a eue avec un professeur de chant qui était plus âgé qu'elle, il y avait 40 ans, qu'elle appelle Daberlohn dans le livre et qui était en réalité Alfred Wolfson. Qui venait à la maison pour travailler avec sa belle-mère, travailler le chant. Et c'est finalement c'est ça qui importe plus que l'arrière-plan, voilà, plus que le contexte, le contexte politique, quoi. C'est les sentiments, la découverte de l'amour, et puis de la naissance de Charlotte comme artiste aussi. Hein. C'est ça auquel on assiste.
On assiste à ça et elle arrive. Ce qui est, alors, faut pas oublier que c'est une reconstitution qu'elle a fait avec la distance à la fois géographique et psychique, évidemment, puisqu'elle était à Nice quand elle a écrit cette histoire. Et donc, elle a pu rendre compte de la complexité quand même d'un homme qui était un peu un pygmalion, qui a voulu séduire la belle-mère et puis qui, en fait, a séduit Charlotte. Mais toute la complexité de cette relation, parce qu'il a beau la faire attendre des heures... Elle décrit comment elle l'attend sur un banc, elle lui court après, elle est complètement amoureuse, etc. C'est lui qui lui dit la première fois, vous faites quelque chose d'intéressant, ça vaut quelque chose. Il faut peut-être parler quand même de la formation de Charlotte,
qui ne
venait
c'est
pas
important.
De nulle part.
Oui. Tout à fait, pour pas, comprendre son œuvre aussi. Oui, oui.
C'est pas une autodidacte,
non,
etc.
Non.
Elle était à l'école des Beaux-Arts à Berlin. C'est pour ça. D'ailleurs, il y a eu des expositions à Berlin. Donc, elle avait étudié la peinture. Elle n'était évidemment pas à maturité, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit qu'il y a une unité dans les couleurs, qu'elle est très inspirée. On pourrait parler de l'expressionnisme, de Van Gogh. Enfin, on pourrait dire énormément de choses. Moi, je ne suis pas historienne d'art, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain, mais elle est extrêmement cultivée, même si elle n'était pas une artiste mûre. Elle s'est jetée à l'eau pour raconter.
Oui, pressée par les circonstances.
Exactement.
Alors, à propos des couleurs, on dit que à Nice, sous l'occupation, elle avait peu de papier à sa disposition. Enfin, peut-être, ça a eu une influence sur la forme donnée à l'œuvre et qu'elle a utilisé que les trois couleurs primaires, le rouge, le bleu et le jaune. Alors, est-ce que c'était un choix esthétique ou est-ce que c'était dicté par les conditions matérielles? On ne sait pas, on ne saura sans doute jamais.
C'est vrai que trouver du papier, du matériau pendant la guerre, ce n'était pas évident. Mais ce que je trouve vraiment... ce que j'aimerais vous dire par rapport à Charlotte aussi, c'est toute l'influence qu'elle a eue sur comment elle a marqué des tas de gens. Par exemple, Marceline Loridan, elle consacre tout un chapitre de son livre « Ma vie Balagan », parce que ça fait écho, elle a eu des suicides dans sa famille. Chacun trouve quelque chose, c'est là le signe d'une grande œuvre, quand elle parle de manière très intime à chacun selon sa propre histoire et comment chacun se l'approprie. Et il y a, je pense, que des dessinateurs comme Spiegelman, Joël Sfar, Frédéric Pajac ont dû connaître aussi Charlotte. Enfin, ils doivent avoir une relation très particulière. Ce serait intéressant de les interroger.
De leur poser la question. Oui. Vous pensez qu'il y a un héritage de Charlotte Salomon?
Ah, je crois vraiment, oui.
Quand elle confiera ses dessins à un médecin de Villefranche, le docteur Moridis, qui lui avait dit d'ailleurs « peint pour survivre hein, », elle dira « c'est toute ma vie ». Et je trouve que ce qui est très beau dans votre film, c'est quelque part, il respecte les dernières volontés. Ce sont ses dernières volontés d'une certaine façon, puisqu'elle va être arrêtée peu après. Vous, par ce film, finalement, Charlotte, vous montrez que Charlotte a su, sans le savoir, enfin, a transcendé le destin qui lui était assigné, c'est-à-dire de disparaître sans laisser de traces, quoi.
Bien sûr, mais ça, c'est le propre de toute œuvre d'art forte, c'est d'échapper à la mort. Mais là, il y a une pression double. Disons qu'il y a la menace nazie. Et il y a la menace de la dépression, de se laisser...
C'est ça, c'est important aussi d'en parler.
Voilà.
Et elle peint pour ne pas devenir folle.
Oui, c'est une forme de rédemption à travers la peinture. De ce point de vue-là, elle est exemplaire. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle inspire autant les gens. Ça vient vraiment d'une nécessité profonde, d'une question de survie. Et quand l'art est une question de survie, il donne souvent les meilleures œuvres.
Est-ce qu'on sait un peu mieux sur ces épidémies de suicide? Est-ce qu'il y avait un gène maniaco-dépressif dans la famille?
Alors là, attention, sur le terrain de la psychiatrie, je ne m'avancerai pas du tout, parce que c'est quand même, la psyché est assez mystérieuse, et surtout, je ne suis pas là pour faire des diètes. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y avait une forme de désespoir qui fait peut-être aussi partie de la culture allemande, de la place des Juifs à cette époque, où c'est très très difficile de s'avancer sur les causes, si vous voulez. Mais ce qui est sûr, c'est ce qui a aggravé, disons, le poids des suicides, c'est le secret. Et on lui a toujours caché. Et donc, quand sa grand-mère se suicide, son grand-père lui dit à cette occasion que sa mère aussi s'était suicidée. Donc elle reçoit ce paquet d'informations absolument tragiques d'un bloc. Et c'est ça qui est un choc fondamental pour la dont elle a besoin
besoin de créer peut-être.
Elle a besoin de se délivrer pour pouvoir vivre tout simplement, pour ne pas sombrer elle-même. Forcément, il y a une tentation de dire d'en finir.
Bien
et
sûr.
Ce qui est formidable, c'est, je crois qu'il faut parler de l'humour de Charlotte.
C'est vrai.
Parce que, voilà, moi, il y a une image, par exemple, qui me revient en tête, où elle est vraiment tout à fait désespérée, puis elle se représente assise sur la lunette des toilettes, en train, les bras entourant sa tête, plongée dans ses réflexions, elle dit « C'est donc ça, la vie ?» Et il y a une espèce de distanciation et d'humour, parce qu'évidemment, cette situation aux toilettes, voilà, de l'heureux. Et c'est plein de choses comme ça. C'est chaque page. Et il y a une jubilation. Il ne faut pas oublier que cet artiste a offert, à travers son malheur, une jubilation de la création, une exaltation de la création et de la vie.
Tout à fait.
Et donc, il ne faut pas l'enfermer dans son malheur. Je
non,
crois que c'est
tout
très
à fait,
important.
Tout à fait.
Parce qu'elle arrive à communiquer en se sauvant, elle nous sauve aussi.
Tout à fait. Et je trouve que tout le mérite de votre film, c'est justement d'avoir...
C'est le film de Richard Dindo.
Oui, d'accord.
Attention,
il n'est pas là.
C'est Richard Dindo c'est un grand réalisateur.
Un grand réalisateur.
Le travail, j'aimerais parler du travail de Richard Dindo, qui a travaillé beaucoup sur des œuvres littéraires, sur Max Frisch. Et moi, j'admirais énormément son travail. Et il y a une raison profonde de lui avoir... Bon, bien sûr, je l'ai proposé, mais il a travaillé de manière totalement personnelle et il s'est vraiment emparé de cette œuvre, comme tout un chacun. Et il a veillé, même, nous avons trois versions du film original, puisque, en fait, le film étant, nous l'avons diffusé en France en français. En Allemagne, la voix de Charlotte est en allemand. Et on a une version internationale. Et donc, il a beaucoup circulé sur le plan mondial grâce à Richard Dindo.
Tout à fait. Et il avait consacré aussi un film à Gauguin, important, Richard Dindo.
Oui, récemment.
Il avait déjà...
Oui,
Il est en 2009, oui, c'est vrai que c'est après.
Voilà.
Ça, oui.
Il est, oui, oui, ça c'est bien plus tard. Moi, je connaissais ces films qui sont toujours aussi une manière de remettre, de donner vie aux morts, si vous voulez, enfin, c'est-à-dire de redonner une perspective vivante à des gens qui ont disparu et de les inscrire dans l'histoire. Et c'est ce qu'il a fait.
Tout à fait. En sauvant l'œuvre comme elle le souhaitait, en empêchant que... Parce que c'est le risque avec Charlotte Salomon, c'est que finalement son destin tragique, à la fois les suicides dans sa famille et on va dire la Shoah, occulte l'œuvre. Voilà. Qu'elle ne soit réduite qu'à une victime du nazisme, voilà. qui par ailleurs a peint. Enfin, oui. Voilà. Je pense que c'est très important, et votre film y contribue, faire passer, et c'était sa volonté, hein, prenez soin de ses dessins, c'est toute ma vie, hein, c'était que l'œuvre, l'œuvre reste, enfin, en tout cas, qu'elle se confondait avec, enfin voilà, sa vie se confondait avec l'œuvre et. Et elle survit grâce à...
Oui, mais grâce aussi, il y a eu tout un parcours, c'est ça, de
au bon soin du docteur Mauridis, mais au vôtre aussi.
Non, mais d'abord, donc, ils ont retrouvé le père qui
ah oui, c'est intéressant, vous parliez des, ouais, des
donc,
les circonstances de
oui,
la découverte.
Donc, le père de Charlotte Salomon est allé...
Qui a survécu, donc.
Qui a survécu avec sa femme, Paola, en Hollande. Et donc, quand il a pu récupérer toute l'œuvre, il l'a déposée au musée juif de Amsterdam, où Ad Petersen a joué un rôle fondamental pour l'étudier, etc. Donc il y a eu, je ne peux pas vous retracer tout le parcours, mais il y a eu beaucoup de... Et puis il y a eu une première édition, parce que si nous avons pu connaître... ce travail, c'est que d'une part il y a eu cette conservation au musée de non et alors Ad Petersen était au Stedelijk Museum où il a fait je crois la première exposition Charlotte en Hollande et puis il y a quelqu'un qui a beaucoup compté, c'est Gary Schwartz qui était un éditeur américain qui a fait la première édition de Charlotte qui est très complète aussi, il n'y a pas tous les calques, mais enfin c'est une édition très complète, donc je crois que c'est important que vous ne disiez pas le bon, je suis ravie que ce livre tout à fait complet existe, mais moi si j'ai pu faire, si nous avons pu travailler sur l'œuvre, c'est grâce au livre de Gary Schwartz qui a été publié dans les années 80. Donc 10 ans avant qu'on fasse le film. Donc il y a des étapes comme ça. Il y a 1960, première exposition à Amsterdam, Ad Petersen. Il y a eu, ben voilà, c'est tout un parcours comme ça de découvreurs qui ont. Et puis progressivement, elle a trouvé une place, disons sur un plan des. En France, ça a été très tard, hein, relativement à d'autres pays.
On peut penser à Anne Frank aussi, d'une certaine façon, dans le destin parallèle de ces deux artistes. Oui. Inaccomplie d'une certaine façon, enfin, qui ont accompli quelque chose, mais qui.
Dont oui, elle était jeune.
Restée, voilà, c'est ça.
Parce qu'elle a créé son œuvre entre 22 et 25 ans. Donc, c'est vraiment une œuvre de jeunesse où elle a mis quand elle dit toute sa vie, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Bon, bien sûr qu'elle a synthétisé, etc., mais il y a l'essence et c'est cette maturité qui est tout à fait...
cette distance qu'elle a par rapport à sa propre histoire, c'est impressionnant, cette maturité.
Et c'est la fiction, le fait de changer les noms des personnages, de jouer entre le vrai et ça lui donne une liberté qu'en général, les artistes n'ont qu'à maturité. Enfin, c'est... Voilà.
Tout à fait. Je parlais d'Anne Frank parce que je crois que c'est le père de Charlotte Salomon et le père d'Anne Frank se sont rencontrés.
Oui, j'ai lu ça dans un article. Je ne suis pas du tout historienne par rapport.
Voilà, je crois que le père d'Anne Frank l'avait incité, le père de Charlotte Salomon, à éditer, à faire connaître son œuvre.
C'est vraisemblable.
Merci au papa, alors. Merci en tout cas, Esther Offenberg. J'invite les auditeurs à réserver leur soirée du jeudi 3 décembre pour aller entendre et voir ou revoir ce film réalisé par Richard Dindo sur l'œuvre de Charlotte Salomon à 19h30, donc au Mémorial de la Shoah. Et je rappelle que l'intégralité de l'œuvre Vie ou théâtre de Charlotte Salomon est pour la première fois éditée en français par les éditions du Tripode avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. C'était Mémoire vive. Deux adresses pour nous retrouver, www.radio-rcj.info, www.mémoirevive au pluriel.net. À dimanche prochain.